20 часов в Париже.
Это не Париж, он идет термометру.
Да-да, c'est Rennes, puis c'est Eco, Sydney.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Catarina Falcao de la rédaction en portugais.
Buona nit a todos.
Avec vous le début de l'apaisement au Mozambique. Pour la rédaction ukrainienne, Xenia Jornoklé. Et cet accord qui exige Donald Trump sur des ressources naturelles de Kiev comme condition au soutien des États-Unis. Et puis Zemam de la rédaction cambodgienne.
Sosday.
Vous nous parlerez, à cause des mesures prises par Donald Trump, de la fermeture de Radio Free Asia et de Voice of America. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est la guerre commerciale que vient de déclarer Donald Trump au monde entier, ou presque. Hausse de droits de douane exorbitants, ce qui inquiète les chefs d'État, les économistes et les boursiers. Ainsi, la Bourse de Paris a effacé tout à l'heure tous ses gains depuis le début de l'année. Les nouveaux droits de douane américains sont particulièrement punitifs pour la Chine, qui s'est vue infliger des droits additionnels de 34%. Pisait parmi donc la quasi-totalité des pays asiatiques frappés par ces tarifs douaniers. Le Cambodge également paie le prix fort avec pas moins de 49%.
Oui, Philippe, si le Cambodge s'est bien sorti du séisme ayant frappé la semaine dernière la Birmanie et la Thaïlande, mais le pays a bien ressenti l'onde de choc tarifaire depuis Washington. Le Cambodge se retrouve en haut de la liste avec 49% de nouveaux tarifs de droits de douane américains. Le ministère cambodgien de commerce a déclaré que ces droits de douane ne sont pas raisonnables. C'est un coup dur pour l'économie du pays, déjà tournée à ralenti depuis le Covid et surtout à cause de crise immobilière. Le Cambodge s'est atteint un important exportateur de produits manufacturés à bas prix pour les marques occidentales, comme notamment les vêtements, les sacs et les chaussures. Et en 2004, le pays a exporté aux États-Unis environ 10 milliards de dollars de biens de consommation, tandis que les importations américaines s'élevaient à environ de 264 millions de dollars. Au-delà de balance commerciale déficitaire que Donald Trump a reproché le Cambodge, Washington accuse le Cambodge de servir de façade pour les produits chinois en leur permettant d'échapper aux droits de douane américains.
Alors revenons sur la pancarte que Donald Trump exhibait à la Maison-Blanche lorsqu'il a annoncé toutes ces augmentations. On pouvait lire entre autres que le Cambodge applique des droits de douane de 97% sur les produits américains.
Oui, c'est un chiffre complètement fou, on ne sait pas d'où ça vient. Pareil pour le droit de douane de l'Union européenne sur le produit américain que l'administration de Trump affirme que c'est 39% alors que la Commission européenne affirme que ce chiffre est équivalent à 4% seulement. En ce qui concerne le Cambodge, selon M. Pen Sovitiet, le porte-parole du ministère de commerce, le pays applique les droits de douane sur les produits américains à hauteur seulement de 29,4% en moyenne selon les chiffres de l'année 2024. Écoutons-le.
Que dit-il ?
Alors, il rappelle que le Cambodge est un pays membre de l'OMC. Selon les règles en vigueur, le pays s'engage à appliquer les droits de douane sur les produits étrangers entre 0 à 35%. Jamais le Cambodge applique les droits de douane de 97% sur le produit américain. Selon lui, l'argument affirmé par Washington n'a pas de poids car il ne reflétait pas la réalité.
Et pour l'Ukraine, Xenia, est-ce que le pays échappe à cette guerre commerciale mondiale ?
Alors en effet, l'Ukraine n'en a pas été exclue, mais elle a reçu un tarif léger de 10%. Et les produits ukrainiens les plus touchés sont l'acier, l'aluminium, qui est déjà taxé de 25% depuis le mois de mars, et les produits agricoles. Mais l'exportation de l'Ukraine vers les États-Unis est faible, seulement 900 millions de dollars, soit 2% du total ukrainien. En comparaison, les États-Unis exportent vers l'Ukraine pour 3 milliards de dollars. Donc l'impact pour l'Ukraine reste limité. Ici, l'Europe, la Chine ou l'Inde répondent avec leurs propres taxes contre les États-Unis. Cela pourrait ouvrir une opportunité pour l'Ukraine d'entrer sur ces marchés.
En revanche, Trump n'a rien annoncé, rien imposé comme taxe à la Russie.
Oui, il y a deux raisons pour ça. Et premièrement, depuis la guerre, le commerce entre les États-Unis et la Russie a beaucoup baissé à cause des sanctions. En 2024, la Russie a exporté envers les États-Unis pour 3 milliards de dollars, et surtout les engrais et du platine. Et deuxièmement, selon New York Times, Trump utilise les taxes comme un outil politique. Il veut négocier avec Poutine et utilise les taxes comme une menace pour faire arrêter la guerre. Par exemple, il a dit qu'il pourrait taxer le pétrole russe si Poutine ne coopère pas. Et enfin, les engrais russes sont importants pour les agriculteurs américains. C'est un électorat clé pour Trump. Il veut éviter d'augmenter leurs coûts. Donc, pas de taxes contre la Russie pour l'instant, mais cela peut changer selon les négociations.
Voilà donc pour l'Asie. Pour l'Europe, qu'en est-il de l'Afrique, Katharina ?
Par exemple, les autos et même un des pays où les taxes douanières ont explosé de 50%, mais aussi Madagascar avec 47%, ou l'Afrique du Sud à 30%. Dans le cas de l'Afrique du Sud, les exportations pour les États-Unis représentent 9% du total des exportations, et c'est important, mais nous parlons quand même d'un géant d'Afrique, donc les Sud-Africains peuvent s'appuyer sur des services des grandes entreprises nord-américaines sur leur territoire pour négocier des tarifs moins lourds. Pour les pays comme les autos au Madagascar, le cadre est plus complexe, comme l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopes a expliqué à ma collègue Cristiana Soares.
No caso concreto da África do Sul, eles estão a visar, digamos, o facto de...
Que dit Carlos Lopes?
En fait, là, il dit que l'Afrique du Sud, c'est un cas à part, mais par exemple, les autos exportent des textiles et des diamants. Et le Madagascar, ce sont des textiles, mais aussi la vanille. Jusqu'à maintenant, ces pays exportaient pour les États-Unis dans le cadre d'un traité signé il y a 25 ans permettant à certains pays africains d'exporter vers les États-Unis sans payer des tarifs. Les conséquences peuvent donc être très sévères parce que beaucoup d'investissements faits dans ces pays avaient comme but l'exportation pour les États-Unis et c'est difficile de trouver des alternatives à un aussi grand marché.
Qu'en est-il maintenant pour les pays lusophones ?
Sauf l'Angola qui a eu des tarifs élevés en 32% et qui exporte surtout du pétrole brut, les autres pays ont eu une augmentation d'environ 10%. Même si c'est un peu ridicule d'augmenter les tarifs pour des pays comme le Cap-Vert qui a environ 500 000 habitants au Saint-Tropez, l'un des plus petits pays au monde. En tout cas, ces pays peuvent être touchés de notre façon, cette guerre commerciale entraîne l'augmentation généralisée des prix et ce sont des archipels, donc ils importent presque tout. Le premier ministre au Cap-Vert, Luiz Correia Silva, a déjà commencé cette guerre commerciale. Il explique que les exportations du Cap-Vert vers les États-Unis sont résiduelles, mais il parle d'inflation et il dit aux gens de se préparer pour des moments compliqués dans le futur. Il dit que pour l'instant, les envois de fonds par la communauté cap-verdienne aux États-Unis, environ 750 000 personnes, plus d'habitants que le propre Cap-Vert, ne sont pas touchés. Et ça, c'est l'essentiel.
La question est maintenant de savoir comment les pays frappés par ces nouveaux tarifs vont réagir. Est-ce qu'il y aura une escalade ? On aura bien évidemment l'occasion d'en parler dans Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Alors que la guerre en Ukraine est toujours en cours, car les Russes ne veulent pas du cessez-le-feu proposé par les Américains, intéressons-nous à cet accord stratégique sur les ressources minières ukrainiennes, justement dans le cadre de ces négociations. Xenia Janorkli, de la rédaction ukrainienne, que comprend précisément cet accord entre l'Ukraine et les États-Unis ?
Alors, à l'origine, un accord cadre sur l'exploitation de ressources naturelles minières devait être signé après une rencontre controversée entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en février dernier dans le bureau Oval. Cet accord restait général. Il posait des bases d'une coopération bilatérale pour l'extraction de certains minerais avec la promesse de négocier les détails plus tard. Mais ce texte n'a finalement pas été signé. Et en réponse, les États-Unis ont proposé une nouvelle version plus ambitieuse qui donnerait à Washington un accès élargi aux terres rares et aux autres ressources stratégiques d'Ukraine. Par contre, ce nouveau projet ne contient aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine alors que le pays est toujours en guerre contre la Russie.
Alors qu'est-ce que les États-Unis demandent précisément dans cette nouvelle version ?
Alors l'Ukraine serait amenée à reconnaître une dette de 120 milliards de dollars envers les États-Unis, soit l'équivalent de l'aide militaire et financière reçue depuis 2022. L'Ukraine accorderait aux États-Unis un droit de regard très large sur l'exploitation de ses ressources naturelles et avec la possibilité pour Washington de transférer ses droits à des tiers. Mais surtout, cet accord pourrait compromettre le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, car il limiterait son contrôle souverain sur ses ressources. Le texte prévoit aussi la création d'un fonds d'investissement contrôlé par les États-Unis, ce qui leur donne la majorité et un droit de veto. Et ce fonds serait alimenté par 50% de revenus générés par la vente de ressources naturelles ukrainiennes et les infrastructures associées. Et pour les projets de reconstruction, la priorité serait donnée aux entreprises américaines. Et enfin, l'accord couvrait l'ensemble de ressources au sous-sol ukrainien, minerais, pétrole, gaz et sur tout le territoire.
Et cet intérêt américain, bien sûr, est motivé par des raisons à la fois économiques et stratégiques.
Oui, tout à fait. Pour des raisons à la fois économiques et stratégiques, Washington cherche à réduire sa dépendance à la Chine, notamment pour les matériaux essentiels aux hautes technologies comme lithium, titane, cobalt, nickel. Or, l'Ukraine possède ces ressources. Elles sont encore peu exploitées, mais elles sont bien présentes. Et cet accord permettrait aussi aux États-Unis de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement dans un contexte de tensions géopolitiques, tout en soutenant un pays allié.
Et comment l'Ukraine réagit-elle face à ces nouvelles exigences ?
Du côté ukrainien, les réactions sont très critiques. La Constitution ukrainienne stipule clairement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Pour le gouvernement et pour une grande partie de la société civile, ces conditions sont inacceptables. Elles sont perçues comme une forme de colonisation économique et une perte de souveraineté.
Cet accord n'est pas encore signé. Est-ce qu'il peut être renégocié ?
Alors oui, le président Zelensky s'est exprimé à ce sujet dans une interview récente. Je propose de l'écouter.
Що стосується цієї угоди і питання НАТО всі угоди немає.
Que dit Zelensky?
Alors, déjà, il dit que il a déclaré que de nouvelles consultations juridiques étaient nécessaires et qu'une équipe gouvernementale d'experts a été envoyée à Washington pour discuter du nouveau de cet accord. Il a précisé que ce texte, dans sa forme actuelle, pourrait ralentir le chemin vers l'intégration européenne de l'Ukraine.
Et comment réagit Donald Trump face à ce refus?
Alors, Donald Trump a publiquement accusé le président Zelensky de vouloir se retirer de l'accord et selon lui, qui selon lui devait être signé là prochainement dans quelques jours. On l'écoute.
Zelensky, by the way, I see he's trying to back out of the rare earth deal.
Que dit le président américain?
Alors, il a déclaré que Zelensky s'exposait à de graves conséquences en cas de refus. Mais du côté ukrainien, on insiste sur le fait que les termes de l'accord ont beaucoup évolué ces derniers jours. Et le président Zelensky a confirmé que l'Ukraine restait ouverte à un accord, mais à des conditions équilibré. Et pendant ce temps, selon certaines sources, Washington et Moscou auraient également entamé des discussions sur la coopération dans le domaine de métaux rares, ce qui ne manque pas d'inquiéter Kiev.
Pour la rédaction ukrainienne de RFI, c'était Xenia Jornoclé. Donald Trump, qui ne se contente pas de frapper uniquement l'économie mondiale, il diminue également drastiquement l'accès à une information indépendante dans plusieurs pays du monde. L'administration dirigée par Elon Musk a donc décidé de fermer deux médias financés par le gouvernement américain, Voice of America et Radio Free Asia. Pizeman, de la rédaction cambodgienne, c'est une décision lourde de conséquences pour la liberté et le droit à l'information au Cambodge.
Oui, Philippe, ces fermetures sont perçues par certains Cambodgiens comme un coup de massue. Ces deux médias subventionnés par le gouvernement américain étaient très actifs dans les pays asiatiques où les alternatives à l'information contrôlée par l'État sont rares ou inexistantes, comme c'est le cas au Cambodge, la Corée du Nord, le Vietnam ou la Birmanie. La radio VOA, qui fête cette année son 83e anniversaire, ainsi que la radio Free Asia sont les deux médias qui critiquent le gouvernement au Cambodge, où l'espace démocratique est de plus en plus rétréci. Par ailleurs, M. Hun Sen, l'homme fort du pays, a posté sur Facebook un message de remerciement à Donald Trump d'avoir fermé ces deux médias qu'il considère comme agents de propagateurs de désinformation.
Et pour les ONG, les journalistes indépendants au Cambodge, l'absence de ces deux médias va contribuer à l'effondrement de contre-pouvoirs dans le pays.
Hein. Oui, Philippe, les ONG et les journalistes indépendants au Cambodge ont déploré cette décision. Écoutons M. Nop Vi, chef exécutif de l'Alliance des journalistes Khmer Cambodja.
Aidez-nous à comprendre ce qu'il dit.
Alors, il dit que l'absence de Radio VOA et Free Asia va avoir un impact partout dans le monde. Il s'agit des deux médias emblématiques depuis plusieurs décennies au service des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie dans le monde. L'espace médiatique indépendant où le peuple peut se faire entendre va disparaître et parallèlement, il va rester que de propagande pro-gouvernementale sur les réseaux sociaux. Une nouvelle situation terrible pour le droit de la liberté de l'information, déplore Madame Chun Sukuntia, directrice du Centre pour l'indépendance du média au Cambodge.
យើងមើលឃើញហើយស្ថានភាពសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហា
Alors elle dit que son ONG avait déjà constaté ces dernières années que les médias indépendants qui osent aborder des sujets sensibles comme notamment les abus de pouvoir, les expropriations et les destructions environnementales sont de plus en plus rares. Le peuple n'aura plus aucun accès aux informations fiables. Désormais, le peu de journalistes et médias indépendants qui continue d'exister se trouve quasiment seul face à face au pouvoir. Cela va augmenter le risque de fermeture et d'arrestation de ces journalistes.
Un mot sur ce qui a été décidé par la justice américaine.
Oui, une note quand même positive concernant la radio VOA, car un juge fédéral de New York a bloqué son processus de démantèlement à la demande de l'Association de reporters sans frontières et les syndicats des journalistes. En attendant, Philippe, je rappelle que AFI reste le seul média international présent officiellement au Cambodge.
Radio France Internationale, la rédaction cambodgienne représentée ce soir par Pizemam. Au Mozambique, après les élections d'octobre dernier, il y a eu de nombreuses manifestations de protestation, et ce malgré la confirmation des résultats des élections générales qui ont donné la victoire à Daniel Chapo. Le pays vit maintenant un moment d'apaisement. Fin mars, le nouveau président a rencontré Venancio Mondlane, son principal opposant aux élections et instigateur de ces manifestations, Katarina Falcao de la rédaction Lusophone. Cette rencontre est un signe important pour la stabilité du pays.
Oui, d'abord, il faut faire le bilan de ces manifestations qui ont duré effectivement presque 6 mois. Pour les autorités, ces manifestations ont tué 80 personnes, mais une ONG a comptabilisé environ 360 morts. La plupart de ces manifestants ont été tués par la police, qui a employé une énorme violence pour faire taire les protestations. Il y a eu aussi des milliers de blessés. Certains ont perdu des yeux, des jambes ou des bras. L'économie du pays était pour la plupart à l'arrêt, faisant perdre plus de 700 millions, merci, au pays et atteignant les secteurs comme les commerces ou le tourisme.
Alors rappelez-nous les raisons pour lesquelles il y a eu ces manifestations.
Les gens étaient dans les rues parce que depuis 1994 et les premières élections libres, c'est Frelimo qui a toujours remporté les élections. Et cette fois-ci, une partie de la population, surtout les jeunes, ont espéré que ce soit Venancio Mondlane qui prenne le pouvoir. Mondlane a déjà passé pour différentes formations politiques et il a eu beaucoup d'attention en 2023 lorsqu'il a voulu être maire de Maputo, la capitale. Il s'était lancé dans une candidature avec Renamo à ce moment-là, le parti historique de l'opposition, mais il a perdu, même s'il a très fortement contesté le résultat. Cette fois-ci, il avait comme allié le parti Podemos, et c'est vrai que pour les élections du 9 octobre 2024, pour devenir président, il y avait un vrai élan autour de lui. Mais les résultats des élections, confirmés après par la Cour suprême, ont donné la victoire à Daniel Chapo. Mais dans les rues, les gens pensaient encore que la victoire appartenait à Venancio Mondlane.
Et finalement, après plusieurs mois de confrontation, Daniel Chapo a signé un accord de dialogue national avec toutes les forces politiques.
Exactement, et dans un premier temps, Mondlane s'est mis un peu à l'écart, mais finalement, ils sont retrouvés pour calmer la violence dans le pays. Mondlane a demandé que tous les blessés reçoivent des soins médicaux gratuitement et la libération des prisonniers qui n'ont pas commis des délits très graves pendant les manifestations. Elder Martins, un cadre historique de Frelimo, le parti Daniel Chapo, a dit que cette rencontre était une fenêtre d'espoir.
Que dit Elder Martins?
Déjà, Martins, il est un des fondateurs de Frelimo, donc c'est quelqu'un quand même important, et il dit que les Mozambicains n'attendaient que ça, une rencontre pour construire la paix sociale après ces mois et des mois de bagarres constantes dans les rues.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'opposition de Mondlane?
Non, pas vraiment. C'est une trêve. Venancio Mondlane vient d'annoncer son nouveau parti politique, s'appelle Anamalal, et même s'il a eu cette rencontre, Mondlane continue à être poursuivi en justice pour avoir poussé les partisans à commettre des actes graves contre l'État mozambicain. Il était placé sous contrôle judiciaire. Mondlane attend maintenant que son parti soit légalisé pour continuer à compter dans la politique du Mozambique, comme nous a dit son bras droit, Dini Stivan.
Viemos aqui ao Ministério da Justiça para fazer a submissão.
Là, il nous explique, en fait, ils espèrent vraiment que son parti soit approuvé.
Et il y a plusieurs problèmes en ce moment au Mozambique.
Oui, le pays fait face aux conséquences des phénomènes climatiques à répétition. Depuis décembre, le Mozambique a été frappé par 3 cyclones différents qui ont fait énormément de dégâts et ont tué 175 personnes. Au même temps, le choléra fait des ravages. Au moins 2000 cas ont été identifiés. Les fausses informations sur la maladie empirent la situation et les rumeurs sur les réseaux sociaux disent que ce sont les agents de santé qui sont en train de propager cette maladie. Au moins 70 écoles étaient déjà vandalisées à cause de ces fausses informations.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation sur place. C'était avec vous Katharina Falcao de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI et sur l'application.